Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.
Après le succès de son premier roman, L'écrivain de la famille, couronné par de nombreux prix, dont le prix Pagnol, Grégoire de la Cour déroule une histoire folle et forte d'amour et de hasard qu'il intitule « La liste de mes envies ». Nous allons vous lire quelques extraits de ce roman qui se lit d'un trait et se déroule sur le ton d'une conversation. L'auteur sait trouver les mots justes pour provoquer le désir.
Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
On se ment toujours. Je sais bien, par exemple, que je ne suis pas jolie. Je n'ai pas des yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent, dans lesquels ils ont envie de se noyer pour qu'on plonge les sauver. Je n'ai pas la taille mannequin. Je suis du genre pulpeuse, enrobée même. Du genre qui occupe une place et demie. J'ai un corps dont les bras d'un homme de taille moyenne ne peuvent pas tout à fait faire le tour. Je n'ai pas la grâce de celle à qui l'on murmure de longues phrases, avec des soupirs en guise de ponctuation. Non. J'appelle plutôt la phrase courte, la formule brutale, l'os du désir sans la couenne, sans le gras confortable. Je sais tout ça. Et pourtant, lorsque Joe n'est pas encore rentré, il m'arrive de monter dans notre chambre et de me planter devant le miroir de notre armoire penderie. Il faut que je lui rappelle de la fixer au mur avant qu'un de ces jours elle ne m'écrabouille pendant ma contemplation. Je ferme alors les yeux et je me déshabille doucement, comme personne ne m'a jamais déshabillée. J'ai chaque fois un peu froid, je frissonne. Quand je suis tout à fait nue, j'attends un peu avant d'ouvrir les yeux. Je savoure, je vagabonde, je rêve. Je revois les corps émouvants, alanguis dans les livres de peinture qui traînaient chez nous. Plus tard, les corps plus crus des magazines. Puis, je relève doucement mes paupières, comme au ralenti. Je regarde mon corps, mes yeux noirs, mes seins petits, ma bouée de chair, ma forêt de poils sombres, et je me trouve belle, et je vous jure qu'à cet instant, je suis belle, très belle même. Nue, si belle devant le miroir, il me semble qu'il suffirait juste de battre des bras pour que je m'envole, légère, gracieuse, que mon corps rejoigne ceux des livres d'art qui traînaient dans la maison de mon enfance. Il serait alors aussi beau qu'eux, définitivement, mais je n'ose jamais. Le bruit de Joe en bas me surprend toujours, un accroc dans la soie de mon rêve. Je me rhabille à la va-vite, l'ombre couvre la clarté de ma peau, je sais la beauté rare sous mes habits, mais Joe ne la voit jamais. Une fois, Il m'a dit que j'étais belle, il y a plus de 20 ans. Et j'avais un peu plus de 20 ans. J'étais joliment vêtue, une robe bleue, une ceinture dorée, un faux air de Dior. Il voulait coucher avec moi. Son compliment eut raison de mes jolis vêtements. Vous voyez, on se ment toujours, parce que l'amour ne résisterait pas à la vérité.
Jo, c'est Jocelyn, mon mari depuis 21 ans. Il ressemble à Venantino Venantini, le beau gosse qui jouait Mickey le Bec dans Le Corneau, et Pascal le Flingueur dans Les Tontons Flingueurs. Mâchoire volontaire, regard sombre, accent italien à spammer, soleil, peau dorée, roucoulade dans la voix qui donne la chair de poule aux poules. Sauf que mon Jocelino Jocelini, lui, il a 10 kilos de plus et un accent loin de faire s'étourdir les filles. Il travaille chez Häagen-Dazs depuis l'ouverture de l'usine en 1990. Il gagne 2 400 € par mois. Il rêve d'un écran plat à la place de notre vieux poste radio-là, d'une Porsche Cayenne, d'une cheminée dans le salon, de la collection complète des James Bond en DVD, d'un chronographe Seiko et d'une femme plus belle et plus jeune que moi. Mais ça, il ne le dit pas. Nous avons 2 enfants, 3 en fait, un garçon, une fille et un cadavre. Romain a été conçu le soir où Joe m'a dit qu'il me trouvait belle et où ce mensonge m'a fait perdre la tête, les vêtements et le pucelage. Il y avait une chance sur des milliers pour que je tombe enceinte la première fois. Et c'est tombé sur moi. Nadine est arrivée 2 ans après. Et depuis, je n'ai plus jamais retrouvé mon poids idéal. Je suis restée grosse, une sorte de femme enceinte vide, un ballon rempli de rien, une bulle d'air. Jo a cessé de me trouver belle, de me toucher. Il s'est mis à traîner devant le radiola le soir en mangeant les glaces qu'on lui donnait à l'usine, puis à boire des 33 exports. Et j'ai pris l'habitude de m'endormir seule. Une nuit, il m'a réveillée. Il était tout dur, il était ivre, il pleurait. Alors je l'ai accueilli en moi, et cette nuit-là, Nadège s'est faufilée dans mon ventre et s'est noyée dans mes chairs et mon chagrin. Quand elle est sortie, 8 mois plus tard, elle était bleue. Son cœur était muet. Mais elle avait des ongles ravissants, des cils très longs, et je suis sûre qu'elle était jolie, même si je n'ai jamais vu la couleur de ses yeux. Moi, mes parents m'ont prénommée Jocelyne. Il y avait une chance sur des millions pour que j'épouse un Jocelyn. Et il a fallu que ça tombe sur moi, Jocelyn et Jocelyne. Une chance sur des millions. Et c'est tombé sur moi.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.
2 ans après l'année de son mariage, Jocelyne a repris la mercerie où elle travaillait après le décès accidentel de sa patronne. Elle doit faire face aux hyper et supermarchés. Elle tricote des couvertures, sacs pour nouveau-nés, des écharpes, des pulls qui se vendent plutôt bien. Voilà, j'ai 47 ans. Nos enfants sont partis. Romain est à Grenoble en 2e année d'une école de commerce. Nadine est en Angleterre. Elle fait du babysitting et des films vidéo. L'un de ses films a été projeté dans un festival où elle a gagné un prix et depuis, nous l'avons perdu. La dernière fois où nous la vîmes, c'était à Noël dernier. Nos enfants vivent leur vie maintenant. Jo ne m'a pas encore quittée pour une plus jeune, une plus mince, plus belle. Il travaille beaucoup à l'usine. On lui a donné une prime le mois dernier. Et s'il suit une formation, on lui a dit qu'il pourrait un jour être contremaître. Contremaître, ça le rapprocherait de ses rêves. Son Cayenne, son écran plat, son chronographe. Moi, mes rêves, ils se sont enfuis.
Il n'y a que dans les livres que l'on peut changer de vie, que l'on peut tout effacer d'un mot, faire disparaître le poids des choses, gommer les vilainies et au bout d'une phrase se retrouver soudain au bout du monde. Daniel et Françoise jouent au loto depuis 18 ans. Chaque semaine, pour 10 euros de mise, elles font des rêves à 20 millions. Une villa sur la Côte d'Azur, un tour du monde, même juste un voyage en Toscane. Une île, un lifting, un diamant, une Santos Dumont, Lady de Cartier, 100 paires de Louboutin et de Jimmy Choo, un tailleur Chanel rose, des perles, des vraies perles, comme Jackie Kennedy. Qu'est-ce qu'elle était belle! Elles attendent la fin de la semaine comme d'autres le Messie. Chaque samedi, leur cœur s'emballe quand les boules tournent boules. Elles retiennent leur souffle, elles ne respirent plus. À chaque fois, on pourrait mourir, disent-elles en cœur. Il y a 12 ans, elles ont gagné de quoi ouvrir coiffe esthétique. Elles m'ont fait porter un bouquet de fleurs tous les jours qu'ont duré les travaux. Et depuis, bien que j'ai développé une féroce allergie aux fleurs, nous sommes devenus amies.
Une journaliste de l'Observateur de la Rajoie est passée à la mercerie ce matin. Elle voulait m'interviewer à propos de mon blog « 10 doigts d'or ». C'est un blog modeste. J'y écris chaque matin à propos du bonheur du tricot, de la broderie, de la couture. J'y fais découvrir des étoffes, des laines, les rubans pailletés, velours et satin, et organdi, les dentelles, coton et élastique, les cordons que drap, lacets cirés, cordelières tressées, rayonnes, les cordons anorak. J'y parle parfois de la mercerie, d'un arrivage de scratch à coudre ou de bande pression. J'y laisse aussi couler quelques vagues à lames de brodeuses, de dentelières ou de tisseuses. Les vagues à lames des femmes qui attendent. Nous sommes toutes des Nathalie, liseuses d'un éternel retour. « Vous avez déjà plus de 1 200 connexions par jour !» s'écrie la journaliste. « 1 200, rien que sur l'agglomération !» Elle a l'âge des enfants dont on est fier. Elle est jolie, avec ses taches de rousseur, ses gencives roses, ses dents si blanches. « Votre blog est inattendu. J'ai 1 000 questions pour vous. Pourquoi chaque jour 1 200 femmes viennent par les chiffons? Pourquoi soudain cet engouement pour le tricot, la mercerie, le toucher ? Est-ce que vous pensez qu'on souffre de l'absence de contact? Est-ce que le virtuel n'a pas tué l'érotisme? Je l'arrête. Je ne sais pas, dis-je, je ne sais pas. Avant, on écrivait un journal intime. Aujourd'hui, c'est un blog. Vous écriviez un journal? Me relance-t-elle? Je souris. Non, non, je n'écrivais pas de journal et je n'ai aucune réponse à vos questions. Je suis désolée. Alors, elle pose son carnet, son crayon, son sac. Elle plante ses yeux dans les miens. Elle écrase sa main sur la mienne et dit « Ma mère vit seule depuis 10 ans. Elle se lève à 6 heures. Elle se prépare un café. Elle arrose ses plantes. Elle écoute les nouvelles à la radio. Elle boit son café, elle fait un brin de toilette. 1 heure plus tard, à 7 heures, sa journée est finie. » Il y a 2 mois, une voisine lui a parlé de votre blog et elle m'a demandé de lui acheter un machin. Un machin, dans son langage, c'est un ordinateur. Depuis, grâce à vos passementeries, vos bouffettes et vos embrasses, elle a retrouvé la joie de vivre. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas de réponse. La journaliste a rassemblé ses affaires en disant « Je reviendrai et vous aurez les réponses. » Il était 11h20 ce matin lorsqu'elle est partie. Mes mains tremblaient, mes paumes étaient moites. Alors, j'ai fermé la boutique et je suis rentrée chez nous.
On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Jo me rend heureuse et je n'ai jamais eu d'envie d'un autre homme que lui. Mais dire que j'ai décidé de ma vie, ça non. En retournant à la mercerie, je traverse la place des héros quand soudain j'entends crier mon nom. Ce sont les jumelles. Elles boivent un café en faisant leur loto. « Joue pour une fois, me supplie Françoise. Tu ne vas pas rester mercière toute ta vie. J'aime bien ma mercerie, dis-je. T'as pas envie d'autre chose, renchérit Daniel? Allez, s'il te plaît. » Alors je me dirige vers le buraliste et demande un bulletin. Lequel? Lequel quoi? Le loto, loto ou l'euro million? Je n'en sais rien, moi. L'euro million, alors? Il y a une belle cagnotte vendredi. Je lui donne les 2 euros qu'il réclame. La machine choisit des chiffres et des étoiles pour moi, puis il me tend un bulletin. Les jumelles applaudissent. Enfin, enfin notre petit Joe va faire de beaux rêves cette nuit. Je suis passée voir mon père. Après qu'il m'eut demandé qui j'étais, il réclama des nouvelles de maman. Je lui dis qu'elle faisait des courses, qu'elle passerait un peu plus tard. « J'espère qu'elle m'apportera mon journal, dit-il, et de la mousse à raser. Je n'en ai plus. » Je lui ai parlé de la mercerie. Il m'a demandé pour la 100e fois si c'était moi la patronne. Il n'en revenait pas. Il était fier. Mercerie Joe, anciennement maison Pillard. Mercerie Joe, ton nom sur une enseigne, Joe, tu te rends compte? Je suis content pour toi. Puis il a relevé la tête, m'a regardé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? 6 minutes venaient de passer. Mais l'événement le plus important de cette période de notre vie, celui qui rendait les jumelles hystériques depuis 2 jours, c'est que le bulletin gagnant de l'euro million avait été validé à Arras. Arras, merde! Dans notre trou du cul? Ça aurait pu être nous, crièrent-elles. 18 millions d'euros. D'accord, d'accord, c'est un petit gain comparé aux 75 millions de Franconville. Mais quand même, 18 millions. Ah, ça me fait un deuxième trou du cul, tiens. Ce qui les rendait plus bouillantes encore, pratiquement au bord de l'apoplexie, c'était que le gagnant ne s'était toujours pas manifesté et qu'il ne restait que 4 jours avant que la somme ne soit perdue et remise en jeu.
Je ne sais pas comment, mais je sus. Je sus, sans avoir encore regardé les chiffres, que c'était moi. Une chance sur 76 millions et ça tombait sur moi. Je lus l'encadré dans la Voix du Nord, tout y était. Le 6, le 7, le 24, le 30 et le 32. Les étoiles, numéros 4 et 5. Un bulletin validé à Arras, place des héros. Une mise à 2 euros, un système flash. 18 547 301 euros et 28 centimes. Alors, je fis un malaise. J'ai rendez-vous à la Française des Jeux, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Dans le train, je pense aux rêves des jumelles, à leur désillusion chaque vendredi soir quand les boules tombent et portent d'autres numéros que leurs numéros réfléchis, leurs numéros pensés, pesés, sous-pesés. Je pense à ma communauté des 10 doigts d'or, ces 5 000 princesses aurores qui rêvent de se piquer le doigt au fuseau de leur rouet pour être réveillées d'un baiser. Je pense aux boucles de 6 minutes de papa, à la vanité des choses, à ce que l'argent ne répare jamais. Je pense à tout ce que maman n'a pas eu, dont elle rêvait, et que je pourrais lui offrir désormais. Elle disait « Les grands-mères sont de meilleures mères. Une mère a bien trop à faire pour être une femme. Ma mère ne me manque toujours, autant qu'au jour de sa chute. J'ai toujours froid autour d'elle, je pleure toujours. À qui dois-je donner 18 547 301 euros et 28 centimes pour qu'elle revienne ? Je pense à moi, à tout ce qui me serait possible maintenant, et je n'ai envie de rien. Rien que tout l'or du monde puisse offrir. Mais est-ce le cas de tout le monde? C'est ici le point de départ des vies nouvelles. Ici, en face d'Hervé Meunier, qu'on découvre la potion magique. Ici, qu'on reçoit le talisman qui change la vie. Le Graal, le chèque à votre nom, au nom de Jocelyne Guerbette, un chèque de 18 547 301 euros et 28 centimes. Il me demande le ticket, ainsi que ma carte d'identité. Il vérifie. Il passe un bref coup de fil. Le chèque sera prêt dans 2 minutes. Souhaitez-vous un café? Nous avons toute la gamme Nespresso. Cette fois, je ne réponds pas. J'aimerais vous faire rencontrer un collègue. Vous devez le rencontrer. C'est un psychologue. Je ne savais pas qu'avoir 18 millions était une maladie, mais je me retiens de tout commentaire. Le psychologue est une psychologue. Elle ressemble à Emmanuel Béard. Comme elle, elle a les lèvres de Daisy Duck, des lèvres si gonflées, dit Mongeau, qu'elles exploseraient si on les mordait. Elle porte un tailleur noir qui met en avant sa plastique, comme dans chirurgie. Elle me tend une main osseuse et me dit « ça ne sera pas long ». Il lui faut 40 minutes pour m'expliquer que ce qui m'arrive est une grande chance et un grand malheur. Je suis riche, je vais pouvoir m'acheter ce que je veux, je vais pouvoir faire des cadeaux, mais attention, je dois me méfier, parce que lorsqu'on a de l'argent, soudain on vous aime, soudain des inconnus vous aiment. Et je ne parle pas des banquiers. Tout sucre, tout miel, tout à coup. Madame Guerbette par-ci, Courbette par-là. J'ai des placements défiscalisés. Investissez dans les DOM. La loi Malraux, Cellier, l'or, la pierre et les pierres précieuses. Mais ils ne vous parleront pas des impôts, de l'ISF, des contrôles fiscaux, ni de leurs frais. Puis elle me fait promettre que j'ai bien compris tout ce qu'elle a dit. Elle me tend un petit Bristol avec 4 numéros d'urgence. N'hésitez pas à nous appeler, Madame Guerbette, et... n'oubliez pas, on va vous aimer pour autre chose que vous désormais. Puis, elle me ramène auprès d'Hervé Meunier. Votre chèque, dit-il, voilà. 18 547 301 € et 28 centimes, articule-t-il lentement, comme une condamnation. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas un virement bancaire? Je suis sûr. En fait, je ne suis plus sûr de rien.
Mon train pour Arras est dans 7 heures. Je remonte la rue Jean Jaurès jusqu'au métro Boulogne-Jean Jaurès, ligne 10, direction gare d'Austerlitz. Je traverse le boulevard de la Madeleine, descends la rue Dufaux et remonte la rue Cambon sur ma gauche jusqu'au 31. J'ai à peine le temps de tendre la main que la porte s'ouvre toute seule par la grâce d'un portier. 2 pas et je pénètre dans un autre monde. Il fait frais, la lumière est douce. Les vendeuses sont belles, discrètes. L'une d'elles s'approche, chuchote. « Je peux vous aider, madame ?»« Je regarde, marmonnais-je impressionnée. Mais c'est elle qui me regarde. »« Mon vieux manteau gris, mais si confortable, vous n'avez pas idée. Mes chaussures à semelles plates, je les ai choisies tôt ce matin, car mes pieds gonflent dans le train. Mon sac informe, usé. Elle me sourit. N'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. Elle s'éloigne, discrète, racée. Je m'approche d'une jolie veste bicolore en tweed de lin et coton. 2 490 €. Les jumelles adoreraient. Je devrais en prendre 2. 4 980 €. Des mitaines, forme biseautée en agneau. 650 €. Une montre toute simple en céramique blanche, 3 100 €. Un ravissant sac en crocodile. Maman aurait adoré, mais jamais osé. Prix sur demande. Ça commence à combien, prix sur demande? Soudain, une actrice dont je ne me rappelle jamais le nom sort de la boutique. Elle tient un grand sac dans chaque main. Elle passe si près de moi que je sens l'effluve de son parfum. Quelque chose de lourd, d'un peu écœurant, vaguement sexuel. Le portier fait une courbette qu'elle ne remarque pas. Dehors, son chauffeur se précipite, s'empare des 2 sacs. Elle s'engouffre dans une grosse voiture noire, puis disparaît derrière les vitres sombres, avalée. Quel cinéma! Moi aussi, Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, je pourrais dévaliser la boutique Chanel. Louer les services d'un chauffeur et me déplacer dans une limousine. Mais pourquoi faire? Ce que j'ai vu de solitude sur le visage de cette actrice m'a effrayée. Alors, je quitte discrètement la boutique de rêve. La vendeuse m'adresse un sourire poliment désolé. Le portier m'ouvre la porte, mais je n'ai pas droit à la courbette. Ou alors, je ne la remarque pas. Je sors le sandwich de mon sac, c'est Joe qui me l'a préparé ce matin alors qu'il faisait encore nuit dehors. Plus tard, j'ai encore le temps avant le départ de mon train, je vais fouiner au marché Saint-Pierre rue Charles Nodier. C'est ma caverne d'Ali Baba. Mes mains plongent dans les tissus, mes doigts tremblent au contact des organdis, des feutrines fines, des jutes, des patchworks. Je ressens alors l'ivresse qu'a dû ressentir cette femme enfermée toute une nuit dans un Sephora, dans leur beau film publicitaire. Tout l'or du monde n'achèterait pas ce vertige. Toutes les femmes sont belles ici. Leurs yeux brillent. D'un morceau de tissu, elle imagine déjà une robe, un coussin, une poupée. Elle fabrique des rêves. Elles ont la beauté du monde au bout de leurs doigts. Avant de partir, j'achète du Bemberg, quelques sangles polypropylène, des serpentines coton et des pompons perles. Le bonheur coûte moins de 40 euros. Pendant les 50 minutes du trajet, je somnole dans l'air feutré du TGV. Je me demande si Romain et Nadine ne manquent de rien maintenant que je peux tout leur offrir. Romain pourrait ouvrir sa propre crêperie, Nadine faire tous les films qu'elle souhaite et ne pas dépendre du succès pour avoir une vie décente. Mais cela rattrape-t-il le temps que nous n'avons pas assez passé ensemble? Les vacances loin les uns des autres, les manques, les heures de solitude et de froid, les peurs. L'argent réduit-il les distances? Rapproche-t-il les gens? Et toi, mon Joe, si tu savais tout ça, tu ferais quoi? Dis-le-moi, tu ferais quoi? J'avais caché le chèque sous la semelle intérieure d'une vieille chaussure. Parfois, la nuit, j'attendais que Joe se mette à ronfler pour quitter le lit, marcher sans bruit jusqu'à l'armoire penderie, plonger la main dans la chaussure et en sortir le trésor de papier. J'allais alors m'enfermer dans la salle de bain. Et là, assis sur la cuvette des toilettes, je dépliais le billet et je le regardais. Les chiffres me donnaient le tournis. Je regarde ce maudit chèque et c'est lui qui me regarde, qui m'accuse. Je replie le chèque, l'étouffe dans mon poing.
Papa, j'ai gagné 18 millions. Papa me regarde. Il n'en croit pas ses oreilles. Sa bouche se fend d'un sourire qui se transforme en rire. Un rire nerveux d'abord qui tourne à la joie. Il essuie les petites larmes qui perlent à ses yeux. C'est formidable, ma petite fille. Tu dois être contente. Tu l'as dit à maman? Oui, je l'ai dit à maman. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent, Jocelyne? Tu as une idée? Justement, papa, je ne sais pas. « Comment, tu ne sais pas? Mais tout le monde saurait quoi faire avec une somme pareille. Tu peux avoir une nouvelle vie. Mais je l'aime, ma vie, papa. Tu crois que Jo m'aimerait toujours, comme je suis, s'il l'avait? Tu es mariée, me questionne-t-il? » Je baisse les yeux. Je ne veux pas qu'il voie ma tristesse. « Est-ce que tu as des enfants, ma chérie? Parce que, si c'est le cas, gâte-les. On ne gâte jamais ses enfants. Est-ce que je te gâte, Jo? Oui, papa, tous les jours. » Ah, c'est bien ça. Tu nous fais rire, maman et moi, même quand tu triches au Monopoly et que tu jures que ce n'est pas toi, que le billet de 500 était là dans la pile de tes billets de 5. Maman est heureuse avec toi. Chaque soir, quand tu rentres, à l'instant même où elle entend ta clé dans la serrure, elle a un très beau geste. Elle ramène sa mèche qui dépasse derrière son oreille et se regarde furtivement dans le miroir. Elle veut être jolie pour toi. Elle veut être ton cadeau. Elle veut être ta belle du Seigneur. Tu crois que ta mère va arriver parce qu'elle doit m'amener le journal et de la mousse à raser. Je n'en ai plus. Elle va arriver, papa, elle va arriver. Ah, c'est bien, c'est bien. Comment vous appelez-vous? C'est court, 6 putains de minutes. Ce week-end, Joe m'emmène au Touquet. Il a réservé une chambre dans le modeste hôtel de la forêt. Nous y arrivons vers 16 heures. Nous marchons longtemps sur la plage. Des chars à voile passent à vive allure près de nous. Leurs ailes claquent et me font à chaque fois sursauter comme lorsque des grappes d'hirondelles passaient en rase-mode près de la maison de grand-mère, les étés d'enfance. Hors saison, le Touquet ressemble à une carte postale. Retraité, labrador, cavaliers et parfois quelques jeunes femmes se promenant sur la digue avec une poussette d'enfant. Hors saison, le Touquet est hors du temps. Le vent fouette nos visages, l'air salé dessèche nos peaux. Nous tremblons, nous sommes en paix. S'il savait, ce serait le tumulte, ce serait la guerre. S'il savait, ne voudrait-il pas des îles au soleil, des cocktails acidulés, du sable brûlant, une chambre immense, des draps frais, des coupes de champagne? Je monte prendre un bain. Je regarde mon corps nu dans le miroir de la salle de bain. Ma bouée de chair a dégonflé, mes cuisses semblent plus minces. J'ai un corps en transit entre deux poids, un corps flou, mais je le trouve beau quand même, émouvant. Il annonce une éclosion, une fragilité nouvelle. Je me dis que si j'étais très riche, je le trouverais moche. Je voudrais tout refaire. Augmentation mammaire, liposuction, abdominoplastie, plastie brachiale et peut-être une légère blépharoplastie. Être riche, c'est voir tout ce qui est laid, puisqu'on a l'arrogance de penser qu'on peut changer les choses, qu'il suffit de payer pour ça. Mais je ne suis pas riche. Je possède juste un chèque de 18 547 301 € et 28 centimes, plié en 8, caché au fond d'une chaussure. Je possède juste la tentation, une autre vie possible, une nouvelle maison, une nouvelle télévision, plein de choses nouvelles, mais rien de différent. Plus tard, je retrouve mon mari dans la salle du restaurant. Il a commandé une bouteille de vin, nous trinquons. « Pourvu que rien ne change et que tout dure, dit-il. Rien de différent. Merci, là-haut, de ne pas m'avoir encore fait encaisser le chèque. »
À la maison, je relis la liste de mes besoins et il m'apparaît que la richesse serait de pouvoir acheter tout ce qui y figure en une fois, de l'économe à l'écran plat, en passant par le manteau de chez Carole et le tapis antidérapant pour la baignoire. Rentrer avec toutes les choses de la liste, détruire la liste et se dire « ça y est, je n'ai plus de besoin ». Je n'ai plus que des envies désormais, que des envies. Mais ça n'arrive jamais. Parce que nos besoins sont nos petits rêves quotidiens. Ce sont nos petites choses à faire qui nous projettent à demain, à après-demain, dans le futur. Ces petits riens qu'on achètera la semaine prochaine et qui nous permettent de penser que la semaine prochaine on sera encore vivant. C'est le besoin d'un tapis de bain antidérapant qui nous maintient en vie, ou d'un couscoussier, d'un économe. Alors on étale ses achats, on programme les lieux où l'on va se rendre, on compare parfois. Un fer calor contre un Roventa, on remplit les armoires lentement, les tiroirs un à un. On passe une vie à remplir une maison. Et quand elle est pleine, on casse les choses pour pouvoir les remplacer, pour avoir quelque chose à faire le lendemain. On va même jusqu'à casser son couple pour se projeter dans une autre histoire, un autre futur, une autre maison, une autre vie à remplir. La fatigue m'emporte au cœur de la nuit. Je me réveille épuisée, rêveuse, amoureuse, jusqu'à ce matin où tout s'effondre.
Je n'ai pas crié, pas pleuré, pas frappé les murs, ni arraché mes cheveux, pas tout cassé autour de moi. Je n'ai pas vomi, je ne suis pas tombée dans les pommes, je n'ai même pas senti mon cœur s'emballer ni un malaise arriver. Je me suis quand même assise sur le lit au cas où. J'ai regardé autour de moi, notre chambre. Les petits cadres dorés avec des photos des enfants à tous les âges. Notre photo de mariage sur la table de chevet de Jo. Un portrait de moi par maman, de mon côté du lit. Elle l'a peint en quelques secondes sur une virgule violette avec ce qui lui restait d'aquarelle bleue sur son pinceau. « Toi en train de lire », avait-elle dit. Mon cœur est resté calme. Mes mains n'ont pas tremblé. Je me suis penchée pour attraper le chemisier que j'avais laissé glisser par terre. Je l'ai posé près de moi sur le lit. Mes doigts l'avaient froissé avant de le lâcher. Je le repasserai tout à l'heure. J'aurais dû m'écouter et acheter la centrale vapeur Calor Vue à Auchan, à 349,99 €, en 27e position sur la liste de mes besoins. C'est alors que j'ai commencé à rire. Rire de moi. Je le savais.
auditeurs, nous vous laissons à la page 131 du roman et au plaisir de découvrir vous-même ce que Jocelyne savait, et vous invitons à revisiter la liste de vos propres envies. La liste de mes envies a été éditée chez Jean-Claude Lattès en février 2012. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Denise et Annie ont lu ces extraits pour vous mettre en appétit. L'accompagnement musical, L'été indien, interprété par Joe Dassin, a été choisi en clin d'œil aux premiers émois amoureux de l'héroïne. À la technique, Vincent et Claude Michel, que nous remercions pour leur disponibilité. À bientôt.
On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez